Au téléphone sonne ce soir, question sur un casting, celui des nouveaux dirigeants de l'Union européenne. Car cette fois, nous y sommes. Les 28 se sont mis d'accord sur les noms de celles et ceux qui vont incarner les institutions de l'Union dans les prochains mois et les prochaines années. Il y aura à la tête de la Commission une femme, pour la première fois, la conservatrice allemande Ursula von der Leyen, à condition que le Parlement entérine ce choix. Le Conseil européen, lui, sera dirigé par le libéral belge Charles Michel. La diplomatie par le socialiste catalan Josep Borrell. Autre décision prise par les 28, placer la française Christine Lagarde, jusque la directrice générale du FMI, à la tête de la Banque Centrale Européenne. Quant au Parlement européen, il a désigné aujourd'hui son président. Ce sera le démocrate italien David Sassoli, élu pour une période de 2 ans et demi. Alors, que penser de ce nouvel organigramme? À quelle logique a-t-il répondu en termes d'influence des différents États, des différents groupes politiques tels qu'ils sont représentés désormais au sein du Parlement? Y a-t-il des gagnants, des perdants? Quid des choix faits par les citoyens européens il y a un petit peu plus d'un mois? Ont-ils été respectés? Pourquoi certains noms sont-ils sortis du chapeau alors qu'il n'avait jamais été évoqué lors des débats des derniers mois? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir avec nos invités. En duplex du Parlement européen à Strasbourg, deux eurodéputés qui connaissent très bien la mécanique européenne. La socialiste française Sylvie Guillaume. Bonsoir Sylvie Guillaume.
Bonsoir.
Membre du groupe des sociaux-démocrates à Strasbourg. Le vert belge Philippe Lamberts, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président du groupe des Verts.
Co-président.
Co-président. Ouh là là. Avec Schkakeller, l'allemande, c'est ça?
Exact.
Et à mes côtés ici à Paris, le politologue et spécialiste des questions européennes, Christian Lequen. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po. N'hésitez pas à intervenir en nous appelant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel. C'est Christophe qui est à Grenoble. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
On vous écoute, vous êtes sur l'antenne d'Inter.
Alors ma question porte sur le choix de Madame von der Leyen pour occuper le poste de présidente de la Commission européenne. Madame von der Leyen est probablement une personne respectable, de grande qualité. Elle a une longue carrière ministérielle, elle est polyglotte, elle est francophile, de surcroît. Cependant, à l'heure où parmi les citoyens européens s'installe un certain désintérêt, une certaine méfiance, voire une certaine défiance à l'égard des institutions européennes, on peut se demander, enfin moi je me demande, si le profil de Madame von der Leyen est suffisant pour occuper une telle fonction. N'aurait-il pas fallu proposer à ce poste une personnalité peut-être d'une plus grande envergure, plus internationale, plus charismatique et surtout disposant d'une véritable vision du projet européen, de façon à être en mesure de réconcilier les institutions européennes avec les citoyens.
Christophe, vous avez voté, vous, aux élections européennes le 26 mai dernier?
Oui, bien sûr.
Et ce que vous voyez aujourd'hui ne correspond pas, pas forcément je dis de manière partisane à votre choix, mais à ce qui s'est passé ce jour-là?
Ce qui m'inquiétait dans le vote, c'était le vote de personnes qui ont exprimé le vote des extrêmes, en fait, et des personnes qui ont exprimé une méfiance, voire une défiance à l'égard des institutions européennes, et je souhaiterais que aux prochaines élections, il y en ait moins. Et donc, il faudrait pour cela une plus grande adhésion au projet, et donc une personne...
Incontestable.
Une personne incontestable, qui dispose d'une vision. Je précise également que le choix de Mme Lagarde, à l'inverse, me semble un excellent choix, puisque c'est une personne déjà très connue, qui semble avoir la carrure suffisante.
Merci Christophe. Alors on va parler de Christine Lagarde, mais comme vous avez commencé sur le choix de la présidente pour la Commission européenne, Ursula von der Leyen, on va poser la question à nos deux eurodéputés qui sont à Strasbourg sur ce choix qui a été fait à Bruxelles. Qui veut commencer peut-être je ne vous vois pas. Oui, Sylvie Guillaume.
Allez, Sylvie.
Allez, honneur aux dames.
Quelques mots pour commencer, pour remercier Christophe de son sa question et de son analyse, qui montre bien que finalement, il y a des logiques très différentes qui se sont confrontées dans ce choix, dans ces réunions à n'en plus finir. C'était les logiques démocratiques, et il y a fait allusion, vous-même, Claire Sauvageant, à être revenu dessus. Et puis, il y a la logique, disons, diplomatique ou de rencontre bilatérale qui rentre là-dedans. Ce qui s'est passé et ce qui est assez clair, c'est qu'après le déchirement du candidat naturel du PPE, c'est-à-dire de la droite, le candidat allemand Manfred Weber, qui a été rigoureusement déchiré par tout le monde, peut-être pas forcément tout à fait à tort d'ailleurs, il fallait savoir, du point de vue du PPE, j'imagine, comment il y avait de nouveau une prééminence dans ce choix. La contestation d'Angela Merkel a été assez lourde pendant tout ce processus. Je pense qu'elle a été considérablement affaiblie. Et d'une certaine manière, je pense que Emmanuel Macron est venu un peu au secours d'Angela Merkel pour essayer de sortir le tout vers le haut avec cette candidature qui, effectivement, vous y faisiez allusion, pourrait être contestable. C'est vrai qu'on regarde un peu le CV de cette dame qui a fait tomber de sa chaise un certain nombre de mes collègues allemands du SPD, parce que ses performances n'ont pas l'air d'être absolument totales, mais contestable peut-être, contestée certainement. C'est-à-dire qu'elle doit être confirmée dans une quinzaine de jours à nouveau à Strasbourg. Et je vous garantis que comme ce deal est un deal mauvais de notre point de vue, qui est parfaitement contestable du point de vue des socialistes et démocrates, cette personnalité sera contestée.
Sera contestée lors du vote. Sur le fait que tout se soit joué comme ça à Bruxelles, un peu loin quand même des eurodéputés, Philippe Lambert, c'est quelque chose que vous avez mal vécu ?
Non, je suis bruxellois d'une part, mais de toute façon, le siège principal du Parlement est bien à Bruxelles, même si son siège légal est à Strasbourg. 3 semaines sur 4, nous opérons à Bruxelles, donc non, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que les logiques qui ont joué sont des logiques partisanes et nationales, plutôt que des logiques collectives et européennes. Et je suis assez d'accord avec Christophe de dire que si l'objectif est de trouver de l'enthousiasme autour de la construction européenne et de combattre par là même le vote national populiste, eh bien, il nous faut que deux conditions soient réunies. D'une part, un changement de cap politique. Autrement dit, la perception que beaucoup de nos concitoyens ont est que les politiques menées en Europe se font au profit d'une catégorie minoritaire de la population, on va dire les détenteurs de capitaux, pour le dire de manière neutre, et on ne veut plus que ces politiques favorisent les multinationales, maintiennent les perturbateurs endocriniens en place, etc., etc. Donc, il faut impulser un changement de cap. Il faut impulser un changement de cap par rapport aux politiques menées ces 30 dernières années. Et donc, il vous faut une personnalité à la tête de la Commission qui, à la fois, ait le charisme nécessaire et, je dirais, la colonne vertébrale nécessaire pour incarner ce changement de cap. Et en effet, Ursula von der Leyen ne répond pas à ces critères dans la mesure où, d'une part, c'est une femme politique dont la caractéristique principale est une grande fidélité, ce qui est une qualité en politique, mais à la personne d'Angela Merkel. C'est sa ministre, c'est la seule ministre qui a fait toutes les mandatures d'Angela Merkel. Et donc, Angela Merkel envoie une fidèle à Bruxelles. Mais est-ce qu'on a besoin d'une fidèle à une des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, ou est-ce qu'on a besoin d'une personnalité forte capable d'impulser une politique? Jusqu'ici, Ursula von der Leyen, elle a obéi, elle a servi. Ici, il faut quelqu'un qui mène, une leaduse. Et ça, je suis désolé, elle ne correspond pas à cette définition. Et par ailleurs, sur le plan politique, elle a été d'une orthodoxie parfaite jusque maintenant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait lui faire confiance à elle pour orienter les politiques de l'Union dans une autre direction? Et donc là-dessus, ça ne nous convainc pas. Elle nous a contacté, même nous les Verts, nous avons reçu en fait très vite un texto de Ursula von der Leyen hier, ma coprésidente et moi, demandant à nous voir dès aujourd'hui. Nous lui avons proposé un rendez-vous lundi prochain. On verra si elle a envie de venir nous voir, mais c'est clair que obtenir
une majorité au Parlement... Vous pourriez voter contre sa nomination?
Absolument. Absolument, et je peux vous dire que les plus virulents hier à la réunion de groupe des Verts Alliance Libre Européenne, c'était nos Allemands qui la connaissent mieux que quiconque et qui savent que ce n'est pas la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il y aura une certaine discipline parmi les groupes qui ont porté le deal de Bruxelles, à savoir les conservateurs, les socialistes et les libéraux. Alors je ne dis pas, Sylvie Guillaume n'est peut-être pas dans l'orthodoxie socialiste, et donc elle fait partie, je pense, des gens avec qui je peux, de qui je me sens très proche, mais je pense que le gros des troupes socialistes sera fidèle au deal. Voilà, et je le regrette parce qu'on n'a pas là l'équipe qui est susceptible de susciter un sursaut. Le sursaut dont nous avons besoin au niveau européen.
Merci beaucoup, Philippe.
Oui, Sylvie Guillaume, Oui, parce que Philippe me lance sur ce terrain, je le reconnais bien, parce que dans cette affaire, et d'une certaine manière, on a tous parlé de cette façon, on s'est intéressé aux personnes. Il y a un point fondamental qu'il ne faut jamais oublier dans nos travaux au Parlement européen et dans les institutions européennes, c'est les questions de fond. Pourquoi on a mis en route des groupes de travail dans... Alors là, pour le coup, avec les Verts, qui continuent, à ma connaissance, de contribuer à cette alliance, en tout cas ce travail en alliance à quatre, les PPE, les libéraux, les Verts et nous, sur des contenus pour faire en sorte d'abord de circonscrire le périmètre des pro-européens dans cette maison et faire en sorte de tenir à distance les autres et de donner du fond sur les engagements. Et ce travail qu'on mène en commun, à quatre, moi j'y tiens beaucoup, je considère qu'il faut que tout le monde doit être arrimé pour la suite, et surtout, ça doit nous servir de base pour le programme de travail de la Commission. Parce qu'on a cette échéance dans 15 jours avec Madame von der Leyen, et on a aussi plus tard la composition de la Commission, le programme de travail de la Commission et le vote sur les commissaires qui sont mis sur
le... On comprend, Sylvie Guillaume, mais dites-nous, vous allez voter pour ou contre ? Vous allez approuver ou pas ?
Alors, écoutez, ne demandez pas à un politique... en tout cas peut-être pas à moi, de dire maintenant, sans avoir écouté, alors que je n'ai jamais entendu parler Madame Ursula von der Leyen, de dire oui ou non. Politiquement, a priori, je ne trouve pas qu'elle fait partie d'un bon casting et que les équilibres différents qui étaient demandés pour faire en sorte que ce deal général qui soit conforme aux orientations politiques, conforme aux citoyens, c'est-à-dire le processus du Spitzenkandidat, les têtes de liste, l'équilibre politique, l'équilibre Est-Ouest, il n'y a personne qui vienne de l'Est dans ce deal. Bon, certes, on a une parité homme-femme, ou à peu près, mais enfin, franchement, le travail de fond, il n'est pas fait pour le moment. Donc, on va l'interroger, on va la cuisiner. Ma position est plutôt négative, a priori, pour des motifs différents que j'ai déjà exprimés. Et on va essayer de faire valoir notre point de vue à l'interne.
Voilà, pas très enthousiastes tous les deux à Strasbourg. Christian Lequen, professeur de sciences politiques, spécialiste des questions européennes, est avec nous. Christian Lequen, est-ce qu'un candidat au poste de président de la Commission a déjà été rejeté par le Parlement européen, ou c'est une hypothèse d'école ?
À ma connaissance, par le Parlement européen, non. En revanche, il y a eu des candidats qui ont été rejetés par le Conseil européen, c'est-à-dire par les chefs d'État et de gouvernement. Par exemple, M. Verhofstadt avait été candidat, il y avait eu une opposition très forte de la Grande-Bretagne. Alors moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit. Bon, les deux orateurs sont tous les deux membres du Parlement, il est normal qu'ils s'expriment avec une sensibilité qui est une sensibilité politique. Madame von der Leyen, je suis pas sûr qu'elle soit plus catastrophique que d'autres candidats qui avaient été évoqués. Madame Guillaume disait qu'elle n'a jamais entendu parler d'elle. Bon, elle a quand même été ministre de la Défense d'Allemagne. Elle a joué un rôle dans la mise en place de ce qu'on a appelé en Europe les coopérations renforcées en matière de défense. Moi, je suis d'accord que c'est pas le candidat idéal qui incarne véritablement une modernité politique. J'aurais préféré la commissaire à la concurrence
Margrethe Vestager
qui me semblait incarner davantage cette modernité politique.
Il y a quand même quelque chose de paradoxal, hein. Il y a eu une campagne électorale, il y a des noms qui sont revenus, on a parlé de Manfred Weber, Franz Timmermans, Margrethe Vestager, et là subitement on a des noms qui sortent du chapeau dont on n'a jamais entendu parler lors de la campagne électorale.
Oui, ben c'est la preuve que les compromis ont été difficiles, et quand les compromis sont difficiles, ben on essaie de trouver des gens qui puissent rallier le plus grand nombre autour de critères complexes. Ils ont été évoqués d'ailleurs, ils étaient à la fois partisans, nationaux, une certaine compétence. Mais dans ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui me paraît important, c'est la réflexion sur le fait que par exemple, l'Europe centrale et orientale n'est absolument pas représentée dans les cinq personnes. Même sur les 5, on peut dire que 4 appartiennent aux pays qui sont les pays de l'Europe des 6.
Hein, les fondateurs.
Et ça, c'est un élément qu'on aurait dû prendre en compte, à mon avis, un peu plus sérieusement, parce qu'il y a tout un débat en Europe centrale, comme on le sait, sur le fait qu'il y aurait une première et une deuxième classe. Ce genre de frustration dans l'Union européenne, ce genre de frustration va bien sûr augmenter.
Et en même temps, le groupe de Visegrad s'est fait entendre, puisqu'il a retoqué Frans Timmermans.
Absolument, ben oui, parce que Frans Timmermans est l'homme qui, à la vice-présidence de la Commission, avait activé le fameux article 7, les sanctions pour le non-respect de l'état de droit à l'égard de la Hongrie. Entre nous, d'ailleurs, il n'a fait que son travail, hein, qui était de mettre en œuvre les traités. Mais je trouve que cette question quand même de la vieille Europe, si je puis dire, représentée parmi les 5 personnalités uniquement, est un problème, parce qu'on a besoin de tout le monde pour avancer sur des sujets comme le changement climatique. Il n'y a pas que des sujets économiques et monétaires, hein, à l'agenda futur.
André est à Strasbourg, il n'est pas au Parlement, mais il est à Strasbourg, il est au bout du fil et au standard du téléphone sonne. Bonsoir André.
Bonsoir, effectivement, je suis à Strasbourg, je suis strasbourgeois, et je vous appelais suite à la nomination, enfin pas la nomination, à la proposition, parce que on oublie que pour l'instant ce ne sont que des propositions qui ne sont pas encore entérinées, les propositions de Madame von der Leyen et de Madame Lagarde. On nous dit partout que les partis populistes qui montent, c'est un danger. On nous le dit, je ne dis pas moi, mais on nous le dit. Eh bien, je crois que si on veut leur faire gagner 5% de plus, c'est exactement les deux personnes qu'il fallait proposer à ces postes. Pourquoi ? Parce que ces deux personnes ont quand même eu des casseroles. Madame Lagarde a été condamnée il y a 2 ans et demi de cela par la Cour de justice de la République dans l'affaire des 406 millions de tapis. Alors certes, il y a eu dispense de peine, mais elle a quand même été condamnée par la Cour de justice de la République. Je ne suis pas certain, dans un pays où vous faites un excès de vitesse, on vous envoie un huissier si vous ne payez pas le PV, qu'une personne qui a égaré 406 millions d'euros soit la personne la plus respectable et la plus saine. Quant à Madame von der Leyen, elle fait l'objet d'enquêtes parlementaires en Allemagne, notamment sur des problèmes d'influence ou de favoritisme. Je crois que dans ces moments-là, c'est peut-être pas le meilleur choix. Et j'ai l'impression que pour Madame von der Leyen, ses deux seules qualités, à supposer qu'on puisse parler de qualité, c'est la fidélité à Madame Merkel qui est récompensée, et c'est le fait d'appartenir à une grande famille aristocratique allemande. C'est vrai que ça fait toujours très chic. Eh bien, je crois que ces deux personnes me font penser à Rastignac ou à Madame Bovary. Ça me rappelle Balzac et Flaubert, les dents qui rayent le parquet pour monter toujours plus haut. Mais ce n'est sans doute pas le choix le plus sain pour l'Europe. Quand on a un passé comme ça, on reste discret. Et je crois que Madame Lagarde aurait bien fait de rester à New York, au FMI. Quant à Madame von der Leyen, elle a une famille nombreuse. Elle a une famille nombreuse. Elle est médecin spécialiste. Elle a de quoi s'occuper.
Merci beaucoup, André, d'être intervenu sur l'antenne de France Inter. On reste à Strasbourg, mais on va au Parlement européen. Je ne sais pas si l'un de vous deux, Sylvie Guillaume ou Philippe Lanvert, veut réagir peut-être à la question de Christine Lagarde, dont on n'a pas encore parlé, qui est donc, a priori, celle qui va prendre la succession de Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne. Qu'en pensez-vous ?
Oui, si je peux me permettre là-dessus, en effet, la casserole que traîne Christine Lagarde n'est pas un avantage. Je rajoute que le candidat socialiste au poste de haut représentant a été condamné par la justice pour délit d'initié dans les transactions boursières, ce qui n'est pas génial non plus en termes d'image. Le problème de Christine Lagarde, c'est un grand format, ça c'est indiscutable, mais elle n'a pas les qualifications requises pour être présidente de la Banque Centrale. Autrement dit, la Banque Centrale est une organisation qui requiert dans ses statuts que son président et son conseil d'administration soient peuplés de gens qui ont une formation à la politique monétaire. Je rappelle que Christine Lagarde est juriste, qu'elle n'a pas de formation en politique monétaire. Et assez curieusement, le Fonds monétaire international, en fait, ne fait pas de politique monétaire, fait de la politique budgétaire. Et donc, elle n'a pas les qualifications requises. Et ce qu'on constate, c'est une politisation du Conseil et des organes dirigeants de la Banque Centrale Européenne. On a vu un ancien ministre espagnol des Finances nommé également au Conseil, au directoire de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ça renforce un risque, me semble-t-il, de politisation de l'institution. Et je dirais que si Christine Lagarde se trouve confrontée à une crise de l'euro, ce qui est loin d'être impossible dans les 8 ans que comptera son mandat, eh bien, il importe, me semble-t-il, que à ce moment-là, le ou la patronne de la Banque centrale comprenne tous les ressorts de la politique monétaire, parce que c'est le seul instrument à sa disposition. Et je crains là un petit peu que Christine Lagarde soit un peu trop politique et peut-être pas assez technique. On m'aurait dit Christine Lagarde, présidente de la Commission, ça j'aurais pu le comprendre, j'aurais pas été d'accord parce que c'est une néolibérale, elle est d'ailleurs de ce point de vue-là plus anglo-saxonne que française, mais à la Banque Centrale Européenne, ça me semble problématique. Quant à Madame von der Leyen, en effet, elle est prise dans des scandales de mauvaise gestion de la Bundeswehr aujourd'hui et de contrats de sous-traitance apparemment très mal gérés. En effet, tout ça n'est pas bon pour l'image des institutions. Bien sûr, je pense que nos concitoyens peuvent comprendre que le représentant politique ne soit pas parfait, mais en tout cas, quand on a des postes de responsabilité pareils, il vaut mieux choisir des personnes au-dessus de tout reproche, et je pense qu'il y en avait. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas de candidat disponible.
Philippe Lambert, monsieur... juste une question, parce que là, ouais. Vous nous en avez cité 3 sur 4 qui ne trouvent pas grâce à vos yeux. Est-ce que votre compatriote Charles Michel, libéral belge, qui va prendre la tête du Conseil européen, vous satisfait un peu plus?
Vos collègues de la radio belge me posaient la question ce matin en disant « Mais enfin, vous êtes quand même fiers comme Belge que votre Premier ministre devienne président du Conseil ». Ma réponse est absolument pas. Charles Michel incarne lui aussi ses politiques néolibérales dures. En plus de ça, j'appelle que Charles Michel a gouverné avec la NVA, un parti quasi d'extrême droite en Belgique et ultra néolibéral. Non, il ne trouve pas grâce à mes yeux. C'est un homme politique qui est d'abord un fils d'eux. Il est fils d'anciens commissaires européens, fils d'anciens ministres et présidents
de Louis Michel.
De Louis Michel, exactement. Et donc, il doit son parcours principalement à cela, parce que franchement, en tout cas, ses qualités personnelles ne m'impressionnent absolument pas. Et donc, non, je ne suis pas fier que mon pays offre, entre guillemets, un Premier ministre qui est en fait aujourd'hui sans majorité, dans un gouvernement en affaires courantes, et qui a perdu toutes les élections auxquelles il s'est présenté. Il faut aussi se rendre compte de ça. Donc, c'est que même en termes électoraux, Charles Michel, c'est pas une locomotive.
Voilà, donc ça fait 4 sur 4 qui vous plaisent pas beaucoup. Oui. Sylvie Guillaume, vous, est-ce qu'il y en a un qui trouve grâce à vos yeux?
Il y en a un qui aurait éventuellement été quand même plus correspondant à notre idée, si on décide qu'on regarde aussi avec le regard de lutte contre les atteintes à l'état de droit, le candidat Frans Timmermans. Alors bon, j'en parle à l'aise puisque notre formation politique française n'était pas prononcée pour lui, mais il était le plus proche de nos idées. Et il a été, vous parliez tout à l'heure des gagnants et des perdants, parmi les gagnants, vous avez effectivement les populistes et les nationalistes, vous avez Viktor Orban, même s'il en rajoute beaucoup dans sa capacité à faire ce choix, mais ils ont eu sa peau sur la question notamment de l'état de droit. Donc, c'est sur le choix de Madame Lagarde, je partage une partie de ce qu'a raconté Philippe à l'instant. Je serais un peu différente, même si je peux pas être suspecte de vouloir que le président de la BCE fasse de la politique, mais il faut aussi faire que de la technique à la BCE. Et objectivement, en 2008, heureusement qu'il n'y a pas eu que de la technique. Mais justement, il ne faut pas que de la technique, il faut aussi de la politique.
Je dis, il a pas assez
prendre des positions politique forte, parce que sinon on ne dépasse pas le cadre du rôle attribué théoriquement.
Alors on parlera dans quelques instants aussi du Parlement, puisque vous avez désigné votre président aujourd'hui, mais je voudrais passer la parole à Christian Lequen sur la façon dont se sont faits tous ces choix, parce que on nous a dit que le couple franco-allemand était moribond ces derniers temps, et là on semble nous dire que finalement Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont mis d'accord pour mettre tout ça en place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en dites?
D'abord, ce qui me frappe beaucoup, c'est combien on oublie que les choses ont été déjà difficiles dans le passé. Enfin, il a fallu trois réunions pour que M. Juncker, en 2014, soit nommé président de la Commission. Lorsque M. Schulz a été désigné président du Parlement européen en 2014 aussi, ça a été extrêmement compliqué. D'ailleurs, il n'a été désigné qu'à la fin du mois d'août. Donc, il faut relativiser, si vous voulez, ce qui s'est passé. Ce qui me frappe, bien entendu, c'est la manière dont on est obligé de combiner tout un tas de critères pour arriver peut-être au plus petit commun dénominateur. Et c'est ça le point, mais...
Parce qu'il n'y a pas de personnalité avec un vrai leadership européen, c'est
voilà,
ça le souci.
Et le souci, c'est de trouver quelqu'un qui n'est pas forcément le meilleur candidat, mais quelqu'un qui n'est pas rejeté par la majorité de ceux qui font la décision. C'est ça la théorie du plus petit commun dénominateur. Et dans le fond, c'est le résultat aussi d'un processus multilatéral avec 28 acteurs autour de la table. C'est le risque d'avoir une décision finale qui est un peu suboptimale. Voilà.
Et on repart au Standard de France Inter. On va à Reims où nous attend Benjamin. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bienvenue. Alors moi je me posais une question, tout simplement en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre le fait que tous les dirigeants européens soient un peu choisis dans une tambouille entre chefs d'État avant d'être proposés au Parlement et le fait en fait que les Français, enfin même tous les Européens en fait, aient un véritable désamour de l'élection européenne?
Merci Benjamin pour cette intervention. Sylvie Guillaume, peut-être à Strasbourg
c'est,
pour une,
c'est intéressant
une réaction
parce que, oui, c'est intéressant parce qu'en plus j'étais en train de noter l'expression suivante, junior partner. Parce que on parlait à l'instant du Conseil et de Charles Michel. Alors, avec humour, j'allais dire qu'il a géré aussi des situations assez compliquées en Belgique. Déjà, c'est peut-être un point à son avantage. Mais moi, ce que je vais lui demander à lui d'abord, c'est de savoir comment il met en route un déblocage de la plupart des dossiers qui le sont par les États membres, par les chefs d'État et de gouvernement et les ministres au Conseil. Vous ne pouvez pas imaginer, et j'aimerais qu'un jour une émission le fasse, le nombre de dossiers qui sont bloqués par des désaccords internes au Conseil. Et après, qu'est-ce qui se passe quand la représentation démocratique est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire nous, parlementaires, on dit que c'est nous qui bloquons ou que l'Europe ne fonctionne pas. Alors que la plupart du temps, et je suis d'une sévérité totale à leur égard, c'est leur incapacité à se mettre d'accord qui bloque les dispositifs. Donc, est-ce que Charles Michel sera en situation de le faire? Je n'en sais rien. Mais la deuxième chose sur le Conseil, et c'est là où je parlais de junior partner, c'est que finalement, ce qui ressort, c'est que les conclaves à Bruxelles, ça a été d'ailleurs à Osaka avant, puisqu'ils ont essayé de faire un deal avant au Japon. Imaginez-vous, on est loin de Strasbourg. Que ce deal-là, il rend d'une certaine manière le Parlement européen marginal, ou en tout cas un junior partner de l'affaire. Et parce qu'on décide quasiment à sa place. Donc c'est pour ça que j'en reviens à tout à l'heure ce que je disais. Nous serons très exigeants, on passera sur le grill les candidats et je crois qu'il faudra qu'on ait des réponses extrêmement fortes sur la personnalité des candidats, mais c'est également sur ce qu'ils vont défendre. Est-ce que Madame Lagarde saura défendre effectivement une politique adaptée à la situation? Est-ce que la future présidente de la Commission est en situation d'être forte sur l'environnement, sur le social, sur le pacte finance climat biodiversité que nous demandons? Tout cela, je ne l'ai pas entendu parler de ça, contrairement à ce que disait Monsieur Lequin tout à l'heure. J'ai entendu parler d'elle, mais je ne l'ai pas entendu parler, elle.
Christian
Lequin. Est-ce que je peux...
Dans un instant, Philippe Lambert, je voudrais que Christian Lequin réagisse.
Moi, j'ai l'impression, en écoutant Madame Guillaume, qu'on veut faire du président du Conseil européen une sorte de leader de l'Europe qui serait devenu un gouvernement. Or, c'est pas le cas. Je veux dire, le président du Conseil européen, il ne peut être qu'un faiseur de compromis. Et d'ailleurs, depuis que la fonction a été créée par le traité de Lisbonne, on a eu Monsieur Van Rompuy tout d'abord, on a eu ensuite Monsieur Tusk. Est-ce qu'il y a eu des vraies propositions originales qui ont émané de l'un ou de l'autre? Monsieur Tusk peut-être un peu en matière de politique étrangère, mais Monsieur Van Rompuy, moi, je ne connais pas une proposition originale. En revanche, il a essayé d'être bienveillant pour trouver des compromis, notamment au moment de la crise de l'euro. Donc, je pense que il ne faut pas attribuer aux personnalités qui ont été désignées des capacités qui institutionnellement sont impossibles. Monsieur Michel, il sera comme ses prédécesseurs un faiseur de compromis, un facilitateur, un honnête courtier, mais il ne sera certainement pas le leader qui incarnera l'Europe. Et je dirais la même chose pour le président de la Commission.
Oui, Philippe Lambert, vous souhaitiez réagir.
Est-il seulement des compromis parviendraient-ils seulement les uns et les autres au Conseil à des compromis? Je parle des conseils, des présidents du Conseil. J'en serais ravi, mais ils n'aboutissent même pas à des compromis. C'est ça que je récuse.
Oui, et je voudrais abonder dans le sens de Sylvie Guillaume, parce que Donald Tusk, par exemple, a plutôt été quelqu'un qui a rendu plus difficile des accords. Je vais prendre l'exemple du dossier difficile asile et migration, un dossier sur lequel le Parlement européen a réussi à trouver une majorité à 5 groupes politiques, allant de la gauche radicale aux conservateurs du PPE, il faut le faire quand même, sur une politique qui nous permet de remettre, enfin d'aller au-delà de ce règlement de Dublin qui rend les seuls pays frontaliers responsables de l'accueil. Eh bien, nous avons su trouver une solution qui allie solidarité et responsabilité. Et au Conseil, alors que pour décider sur ces matières-là, il faut la majorité, Donald Tusk a décrété qu'il recherchait l'unanimité et il a organisé de la sorte le blocage au Conseil.
Exactement.
Puisqu'il suffisait que n'importe quel État membre dise non à un élément de la solution pour qu'il y ait l'élément soit rejeté. Et c'est ce qui s'est passé. Le Conseil, à l'heure d'aujourd'hui, n'a toujours pas de position. Ils n'ont même pas de position, puisqu'il faut l'unanimité. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Pour revenir à la question de Benjamin, le processus appelé de son nom allemand, Spitzenkandidat, des candidats figures de proue des partis, avait pour but précisément, et a toujours pour but de remédier à cette espèce de déficit démocratique perçu par nos concitoyens. Autrement dit, lorsque les principales personnalités mises à la tête des institutions européennes sont des personnalités qui, à l'occasion des élections européennes, ont fait campagne dans les États de l'Union, eh bien, elles acquièrent de la sorte à la fois un contact avec le terrain et une légitimité, une visibilité qu'elles n'ont pas autrement. Puisque aujourd'hui, les circonscriptions électorales européennes sont des circonscriptions, en fait, dans le meilleur des cas, nationales, parfois sous-nationales, comme en Belgique. On a 3 circonscriptions pour un petit pays de 11 millions d'habitants. Et donc, le fait d'avoir des listes transnationales menées par des têtes de liste transnationales, qui seraient des candidats naturels à des hautes fonctions européennes, pas seulement la Commission d'ailleurs, donnerait, je pense, beaucoup plus de visibilité démocratique. Maintenant, c'est pas facile, parce que la politique, c'est le débat. Le véhicule du débat, c'est la langue, et on ne va pas aller faire campagne en France en anglais ou en allemand. Et donc, c'est évidemment une exigence très importante pour les candidats figures de proue, que ces candidats soient capables de s'exprimer, de débattre dans plusieurs langues. Et là, il faut rendre à César Timmermans ce qui lui appartient. C'est quelqu'un qui est capable, Franz Timmermans, le candidat socialiste, était capable de faire campagne dans 5 ou 6 langues, et en plus de ça, qu'il manie à la perfection. C'était pas approximatif.
Et j'aimerais bien qu'on dise un mot, Philippe Lamberts, je vous laisse terminer votre phrase, mais quand même du président du Parlement européen qui a été désigné aujourd'hui. C'est un social-démocrate italien, David Sassoli, élu pour 2 ans et demi. D'abord, pourquoi 2 ans et demi?
Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Parlement européen. Toutes les fonctions d'importance sont octroyées pour un demi-mandat. J'ai été élu à la tête de mon groupe pour un demi-mandat renouvelable, mais il faudra voir à mi-mandat si mon groupe est toujours satisfait. Même chose pour les présidents de commission, pour le président du Parlement, pour les vice-présidents du Parlement. Et donc c'est comme ça que ça se passe chez nous, et c'est tout à fait normal. David Sassoli est un honnête homme. Je ne pense pas qu'il a la poigne nécessaire que pour imposer la volonté du Parlement face au Conseil, parce que, en fait, moi, la leçon que je retiens du week-end, c'est une volonté assez farouche du Conseil de reprendre ou de prendre encore plus de contrôle sur les 2 autres institutions. La Commission européenne, on y met à sa tête quelqu'un qui était hier ministre, et même pas ministre de premier rang, d'Angela Merkel. Et qui est-ce qu'on met au Conseil? Un obligé d'Emmanuel Macron, qui lui a sauvé la peau en l'installant là. Et au Parlement européen, je dois reconnaître que la volonté de prise de contrôle, et Sylvie Guillaume pourra mieux en parler que moi, mais de certains gouvernements, comme l'Espagnol dans le groupe socialiste ou le Français dans le groupe libéral, sont patentes. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté de soumettre à la volonté du Conseil tant la Commission que le Parlement. Et là, il vous faudrait à la tête du Parlement un homme ou une femme à poigne qui est capable de résister aux pressions du Conseil. Et là, franchement, David Sassoli, tout gentil qu'il soit, ne me semble pas à la hauteur pour vraiment affirmer le rôle du Parlement. Il peut me surprendre.
Philippe Lamberts,
mais a priori...
Je vous arrête parce que j'ai quand même encore une ou deux questions concernant les commissions du Parlement européen. Je ne sais pas où vous en êtes des désignations des uns et des autres. Est-ce que les Verts vont présider une commission? Est-ce que les souverainistes vont présider une commission? Où est-ce que vous en êtes de tout ça?
Alors, les Verts présideront la commission des transports et la commission très importante du marché intérieur. Donc, nous avons, et ce seront deux femmes qui seront présentées par les Verts. Il y a un risque, en effet, que les nationaux populistes occupent des fonctions, puisqu'on alloue, en fait, les postes de commission à la proportionnelle des groupes politiques. Et donc, oui, le groupe dans lequel siège le RN en France pourrait briguer une ou deux commissions. Je crois que c'est deux, hein. Donc voilà, ça c'est une possibilité.
C'est le Guillaume,
et là-dessus, les choses sont très claires. Quand on voit que ce groupe extrémiste pourrait être en situation d'être à la tête d'une commission aussi importante que la commission Agri, la commission Jury. Alors, Jury, ça a quand même fait rigoler tout le monde, parce que devenir président de la commission Jury quand on est quelqu'un qui vient du Rassemblement National, on voit très très bien que ça sert à bloquer les levées d'immunité, alors que une énorme partie des élus du Rassemblement National ont vu leur immunité levée parce qu'il y avait eu des malversations financières avec les fonds du Parlement européen. Donc on essaiera d'éviter cela. Et je crois que c'est la fin.
Je voudrais quand même qu'on laisse un tout petit mot à Christian Lequesne pour terminer.
Alors j'ai juste un message avant qu'il termine. Il pourra évidemment terminer. Non, c'est pas publicitaire du tout. Mais je crois savoir qu'il s'agit de la dernière émission du Téléphone Sonne à Strasbourg. Et je voulais dire mon soutien à cette émission, à son animateur et au regard éclairé de l'émission et régulier.
Alors vous faites référence à ce que fait Stéphane Le Neuf régulièrement au Parlement européen. Voilà. Mais soyez assurés, Sylvie Guillaume, qu'on continuera, comme on le fait depuis toujours, à parler du Parlement européen,
j'espère,
y compris
bien.
D'ici
nous
à Paris,
comptons.
Vous le savez.
On y compte beaucoup.
On s'y intéresse. Voilà, Christian Lequesne, vous avez 20 secondes pour conclure,
oui,
parce qu'ils ont déjà bien mangé le temps.
Je suis pas un adepte de la méthode Coué, mais en écoutant quand même Monsieur Lambert et Madame Guillaume, je me dis que dans tout ce qu'ils nous ont dit ce soir, il y a quasiment rien de positif. C'est-à-dire, ce ne sont que des critiques de ceux qui ont été nommés, des critiques des autres institutions. En les écoutant, et ça sent, je suis désolé de leur dire, mais ça sent quand même tout ce qu'ils nous ont dit, la politique politicienne dans, disons, ce qu'elle a d'un peu désagréable. Et si nous voulons avancer pour faire l'Europe, nous avons besoin de gens qui soient positifs, qui croient un peu en l'avenir et qui croient un peu dans les hommes et les femmes sans leur faire automatiquement des procès d'intention avant qu'ils aient commencé leur travail. Et ce n'est absolument pas ce que nous avons entendu ce soir. Donc là, je m'exprime pas en tant qu'analyste, mais aussi en tant que citoyen. C'est pour moi ce qu'il ne faut pas faire.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian Lequesne. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce téléphone sonne.